Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Cette émission devrait vous faire saliver. Elle porte en effet sur un sujet doux à nos papilles, la gastronomie. Mais peut-on écrire une histoire de la gastronomie? Cette question, mon invité, le docteur Jean Vitaud, avait tenté d'y répondre avec son talent et sa profonde connaissance du sujet devant les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques le 4 juillet 2005. Et je m'empresse de vous signaler que cette communication est disponible à l'écoute et au téléchargement dans la médiathèque de Canal Académie. Aujourd'hui, dans notre studio, avec ce même Jean Vitaud, nous allons continuer à parler de la gastronomie autour de son livre « Un que sais-je » justement consacré à la gastronomie. Docteur Vitaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes non seulement docteur en médecine et particulièrement gastro-entérologue, mais vous êtes surtout fin gastronome et grand connaisseur de l'histoire de la gastronomie. Alors répondons tout de suite à cette question. Peut-on écrire une histoire de la gastronomie, une histoire depuis les origines de l'humanité?
Je pense qu'il faut écrire une histoire de la gastronomie depuis les origines de l'humanité, car quelque part, la gastronomie, c'est l'histoire de l'homme. Bien que le mot soit récent, il a été inventé par Berchoux en 1805 dans le ménage de l'homme des villes et des champs.
1805, on ne le voit pas apparaître dans le vocabulaire français avant.
Il y a une exception du mot au XVIIe siècle, mais elle est restée isolée.
Ah bon.
Mais le véritable inventeur de la gastronomie, c'est quand même Brillat Savarin.
Qui en donnait une définition?
Il n'en donne pas vraiment une définition. Il dit que c'est tout ce qui concerne l'histoire naturelle, la physique, la chimie, les apprêts de tout ce que l'on peut préparer pour être mangé.
Alors moi, je suis une fanatique de l'étymologie. Alors, gastronomie, ça vient évidemment du grec.
Ça vient du grec. Et gastro, ça veut dire estomac, et nomos, c'est la science.
Donc là, ce n'est pas la science de l'estomac, la gastronomie,
oui,
mais c'est la science de ce qui fait du bien. C'est la science
de ce qui remplit l'estomac, dirons-nous.
Alors, quelle est justement, docteur Vitaud, la différence entre l'alimentation, la nourriture et la gastronomie?
La différence est assez claire. On trouve déjà la différence dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais celui qui l'a le mieux exprimé, c'est probablement Jean-François Revel dans Un festin en parole, c'est-à-dire que l'alimentation, c'est après tout la nécessité qu'on a à se nourrir, et la gastronomie, c'est probablement le plaisir qu'on y prend.
Alors, est-ce que vous me permettez de citer Jean-François Revel,
oui,
qui était membre de l'Académie française, faut-il le rappeler? La cuisine est un perfectionnement de l'alimentation, la gastronomie est un perfectionnement de la cuisine elle-même. Donc
absolument,
c'est un degré au-dessus.
C'est un degré au-dessus. C'est un degré au-dessus. Et je pense que dans gastronomie, la notion de plaisir est indissociable.
Bon, voilà déjà un critère.
Alors que dans l'alimentation, je pense qu'il y a une nécessité. On retrouve d'ailleurs cela dans un aphorisme de Brillat Savarin qui disait « Les animaux se nourrissent ou se repaissent, l'homme se nourrit et l'homme de qualité seulement est gastronome. »
Voilà, c'est-à-dire déguste et apprécie. Alors justement, docteur Vitaud, qu'est-ce qui fait qu'un plat est ou non gastronomique?
C'est une définition redoutable. Je crois que le plat est gastronomique par le plaisir qu'il vous donne. Il est gastronomique soit par la qualité du produit.
C'est indispensable,
la qualité
du produit et des produits.
Est strictement indispensable. On ne peut pas masquer un mauvais produit par de bons apprêts.
D'ailleurs, dans votre que sais-je, vous accordez beaucoup d'importance.
Le produit est sûrement, et je dirais même, probablement plus encore maintenant que par le passé, la chose la plus indispensable à la gastronomie. Et ensuite, il faut l'apprêter de telle façon que l'on mette en valeur le produit et non pas pour le masquer par autre chose. Quand on met plusieurs ou quand on mélange plusieurs ingrédients dans un même plat, il faut qu'ils arrivent à une alchimie qui concourt à réaliser un ensemble. et non pas à partir dans n'importe quelle direction. Donc la véritable gastronomie, c'est probablement l'alchimie du concours des saveurs et des goûts pour une sublimation, je dirais.
Et vous avez aussi fait remarquer dans ce livre qu'il fallait que 4 au moins de nos sens soient concernés.
Eh bien,
alors évidemment, le goût, hein,
le
c'est
goût,
le premier.
C'est évident, mais l'odorat, qui est probablement indissociable du goût, quelque part, joue un rôle, je dirais, apéritif. La mâche, c'est-à-dire le toucher, c'est-à-dire ce que l'on ressent. La vue, quand on voit un bon plat ou une belle présentation, ça vous donne envie de saliver. Quant à l'ouïe, c'est quand même
voilà.
Le sens qui est le seul qui soit un petit peu en regret. Alors, on peut trouver une solution pour mettre l'ouïe dans les 5 sens pour la gastronomie. C'est ce que j'appelle la paix des mandibules ou la pax mandibulica en latin. C'est-à-dire que quand le plat est très bon, les gens se taisent.
Ah oui, c'est l'inverse. Voilà. Mais on peut aussi entendre les petits bruits d'un plat qui sort du four, par exemple.
On sent les bruits qui sortent du four, mais moins sur la table, finalement.
Moins sur la... Est-ce que la table elle-même, ça participe de la gastronomie, c'est-à-dire la manière dont elle est dressée ?
La manière dont la table est dressée participe de la gastronomie à plus d'un titre. Elle participe d'abord par la vue, par le plaisir qu'on a à être sur une belle table, et puis par le confort que donnent tous les instruments dont on sert. Il faut savoir qu'autrefois, la serviette, par exemple, a eu une existence mouvementée dans le temps. Elle n'existait pas à Rome. Au Moyen-Âge, on a commencé par la suspendre derrière les gens et ils allaient s'essuyer sur la serviette. Puis la serviette individuelle n'est apparue qu'à la Renaissance ou que sous Louis XIII. Avant, malheureusement, on s'essuyait la bouche avec sa manche, ce qui effectivement manquait.
Enfin, pour nous, ça manque d'élégance,
ça
mais
manque
après
d'élégance.
Tout, c'était aussi efficace peut-être.
Mais d'autre part, les cuillères, les légumes et les assiettes ont également eu une existence tourmentée. Les assiettes ne sont vraiment apparues qu'à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance avec l'invention de la faïence d'abord, qui vient de la faenza en Italie au XVIe siècle, puis de la porcelaine, qui est après tout une copie des porcelaines chinoises et la découverte du kaolin à Limoges au XVIIe. La fourchette a été ramenée, il faut bien le dire, à la suite du long voyage qu'avait mis Henri II pour rentrer du royaume de Pologne dont il avait été élu roi, dont il était parti en fuite, par son intermède prolongé à Venise, et où Catherine de Médicis avait dû le faire chercher quasiment de force pour revenir à Paris et occuper sa royauté. Ce cher Henri III ne manquait pas d'intérêt. Il avait apporté la fourchette, qui avait paru au départ comme un instrument efféminé. Et le couteau est probablement le seul très ancien, ainsi que la cuillère, parce qu'au Moyen-Âge, on ne mangeait souvent que ce que l'on a appelé plus tard des brouets, c'est-à-dire des soupes, des bouillies, et ces brouets, il fallait une cuillère pour les manger. Donc ce qui fait qu'au Moyen-Âge, il y avait des écuelles qui étaient des plats creux où l'on mangeait, et on ne mangeait pas le reste sur des assiettes, mais on le mettait sur ce qu'on appelait des tranchoirs, qui étaient des tranches de pain sur lesquelles on disposait les viandes et les aliments. Alors, les banquets du Moyen-Âge étaient stupéfiants parce qu'on prêtait autant d'attention à la présentation du plat qu'à son goût. Et on servait des choses qui nous paraissent invraisemblables. On mangeait du hérons, ceux qui en ont mangé disent que ça a le goût de poisson, du cygne, ça malheureusement j'en ai moi-même mangé, et je n'ai pas trouvé que c'était très bon, en tout cas c'était très dur. Et en plus, on les habillait de telle façon qu'ils apparaissent
presque vrais.
Dorés. On mettait de l'or sur leur bec et sur leurs pattes. Il y en a même où on trouvait le moyen de leur faire cracher du feu. Sans parler des fameux pâtés en croûte du vœu du faisan, célèbre banquet du duc de Bourgogne pour prêcher la croisade, où on fit sortir des oiseaux vivants d'un pâté en croûte, et certains autres où il semblerait même qu'on ait fait sortir des courtisanes.
Docteur Vito, est-ce que justement l'histoire nous apprend que les goûts ont beaucoup changé ? Est-ce qu'aujourd'hui on mangerait de la même façon qu'au Moyen-Âge ?
Il est clair qu'on ne mangerait pas de la même façon qu'au Moyen-Âge, et encore moins qu'à Rome. Il est clair qu'en plus, les goûts ont changé en fonction du temps, parce que le goût, c'est finalement celui d'une époque, d'une part, et celui également de la facilité des produits dont on dispose, du commerce, de quantité de choses. Et puis, il y a des choses qui nous restent assez incompréhensibles. Il est vrai que la cuisine médiévale et romaine impliquait une grande tendance à l'aigre-doux. Ils mettaient beaucoup de miel, beaucoup d'épices en même temps, ils servaient beaucoup de saumure, et le tout faisait un goût aigre-doux qui est finalement probablement assez proche d'une certaine tradition de la cuisine chinoise encore de nos jours. Il est vrai également que le goût du faisandage nous paraît démesuré. On ne sait pas très bien pourquoi on faisandait autant. C'est Grimaud de la Reynière qui disait qu'un perdreau tiré au Mardi Gras devait être mangé à Pâques.
J'ai cru que vous aimiez dire la Pentecôte, je m'inquiète.
Non, c'était Pâques. Ce qui est quand même assez surprenant, alors que maintenant, depuis la fin du 19e siècle, on les mange plutôt au bout du fusil, c'est-à-dire quasiment le jour même ou presque. Alors, il est vrai que cette mode des épices était extraordinaire, et ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où les épices sont arrivées en quantité considérable du fait des grandes découvertes, elles ont quasiment passé de mode.
Ah bon?
Et donc, on s'en est beaucoup moins servi, on se sert toujours d'épices
actuellement.
La rareté
donnait du prix.
La cannelle, les clous de girofle que l'on cloute dans le pot-au-feu ou dans la blanquette, on s'en sert toujours, mais avec parcimonie, si je dirais, alors qu'à l'époque, on en mettait largement. Il ne faut pas non plus oublier qu'au Moyen-Âge, le sucre était aussi une épice.
Alors, docteur Vito, j'ai lu dans la page 85 de votre Que sais-je, dont nous parlons, que deux académiciens avaient orné des menus de leur talent d'artiste, Jean Cocteau de l'Académie française et Yves Braillère de l'Académie des beaux-arts, lequel Cocteau fréquentait assidûment avec Colette le Grand Véfour dans les années 50, tenu par Raymond Oliver,
absolument,
que tout le monde connaissait, au moins quand on appartient à une certaine génération. Est-ce que c'est important, le menu, et est-ce que l'histoire nous a conservé des menus,
L'histoire nous a conservé des menus étonnants. Le plus ancien et le plus célèbre est sûrement celui du maréchal de Richelieu, dit le menu tout bœuf. Ce menu tout bœuf a été extraordinaire. Pendant la guerre de 7 ans, le maréchal de Richelieu, dans une forteresse du Hanovre qui s'appelait Ostefriese, avait quelques prisonniers de marque. Et avec son cuisinier, il mit au point un menu avec tout ce qui lui restait. C'est-à-dire un bœuf, certes beau, et des racines. Des racines, c'est comme ça qu'on appelait les légumes autrefois, dans nos contrées. Quand on disait qu'il n'en était contraint qu'à manger des racines, c'est qu'il n'avait plus de pain. Mmh. Et alors, donc, il a mis au point un menu, et il a fait 25 plats avec l'aide de son cuisinier. Le maréchal de Richelieu était un grand gastronome. C'est lui qui avait dit, avant le siècle de Louis XV, on ne savait pas manger. Il faut dire que tous les proches de Louis XV, à commencer par ses femmes, que ce soit sa femme légitime, Marie Leglinska, ou que ce soit ses maîtresses, que ce soit la Dubarry ou la Pompadour, ont toujours été des grands gastronomes et ont toujours essayé de le séduire par la cuisine. De là la célèbre phrase de Madame du Barry, « La France, ton café fout le camp », en s'adressant à Louis XV sous le nom de la France. Et donc, il faut bien dire que le maréchal de Richelieu avait réussi un plat extraordinaire qui a été consigné et que l'on a. Le problème, c'est que les menus anciens ont rarement été consignés et écrits. Les premiers menus écrits ont été écrits en Amérique aux alentours du début du 18e siècle, du 19e siècle. Et ensuite, il y en a un certain nombre qui ont été écrits et qui sont restés célèbres. On ne garde pas le menu du fameux banquier républicain qui, ayant été interdit par Guizot, a conduit à la révolution de 1848. Mais par contre, on garde un certain nombre de menus de l'époque du siège de Paris. Il faut savoir qu'à l'époque du siège de Paris, on a tout mangé. À une exception près, finalement, la seule bête qui a échappé à la consommation était le chien, pour lequel il y a en France un tabou de consommation certain, alors qu'on a mangé les chats et les rats, et les animaux du zoo. Alors, les animaux du zoo, ça a été extraordinaire, parce qu'on a mangé les girafes, le sajou et les éléphants. Alors, les éléphants, il y a une histoire très drôle à ce propos. Un restaurateur célèbre qui s'appelait Voisin a servi les éléphants du jardin d'acclimatation, qui, si je me souviens bien, s'appelait Castor et Pollux, et les a achetés, les a servis, a fait de la publicité. Au deuxième jour, il n'y avait plus d'éléphants. Mais cependant, la publicité étant là, et tout le monde venant manger de l'éléphant, Il a trouvé une solution élégante, il a acheté 40 chevaux de réforme qu'il a détaillés comme de l'éléphant.
Docteur Vito, je sais qu'avec vous, on a mille histoires à raconter. On vous retrouvera d'ailleurs dans vos chroniques régulièrement, puisque vous allez animer sur Canal Académie des chroniques de gastronomie. Je vais simplement rappeler que votre « Que sais-je », c'est 125 pages et c'est bien court pour traiter de la gastronomie, mais que vous allez certainement publier très prochainement une gastronomie complète et détaillée. On aura l'occasion de se retrouver. Merci d'être venu jusqu'à nous et nous faire saliver avec cette jolie émission.
Merci.